Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière.
Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est donc la diffusion de la deuxième partie de l'entretien avec le général Benteja, ancien chef d'état-major des armées, ancien chef d'état-major particulier du président de la République aussi, dont l'ouvrage « Les ors de la République » sort ces jours-ci aux éditions Perrin. Donc pour ceux qui auraient raté la première partie qui était diffusée mardi dernier, c'était essentiellement axé autour de son parcours personnel, de son parcours militaire et de son arrivée à l'Élysée, notamment sous François Mitterrand. Aujourd'hui, c'est résolument la deuxième partie de ses années à l'Élysée, sous Jacques Chirac, notamment en tant que chef d'état-major particulier du président, puis ensuite comme chef d'état-major des armées. Et à travers cette phase et à travers ces années, c'est évidemment les grands événements militaires de la présidence de Jacques Chirac, notamment la suppression du service militaire et toutes les conséquences que ça a eu, mais aussi les interventions multiples en Afrique qui sont évoquées dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, puisqu'on en parlait, et de ce fait que votre pouvoir, votre importance, votre voix, disons, dépendait de celle du président, et que, en fait, votre capacité à vous imposer dépendait de la perception que les autres avaient du fait que vous portiez, en fait, la voix du président, et du coup, autour de quoi est-ce que vous pensez que votre relation avec Jacques Chirac s'est construite ? Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment lui qui vous a nommé aux plus hautes fonctions que vous avez occupées, donc chef d'état-major particulier, puis chef d'état-major des armées, puis ensuite au niveau européen. Donc clairement, il s'est passé quelque chose, quoi, entre vous, il y avait quelque chose qu'il appréciait dans le dialogue, dans l'interaction sur les sujets militaires. Qu'est-ce que c'était? Enfin, je veux dire, on ne le sait pas forcément, on l'a oublié, mais Jacques Chirac est passé par l'armée, il est aussi passé par les blindés pendant son service militaire. Est-ce que ça a joué? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, si vous le savez, dans la mesure où vous le savez.
Ouais. Ouais, je pense que je sais un peu maintenant. Chirac aimait beaucoup les armées. Vous savez qu'il a fait son service militaire en Algérie. Il a été chef de peloton, puis commandant d'escadron, comme lieutenant. Il a passé 2 ans en Algérie. Et quand est arrivée la fin de son service militaire, et qu'il a dû rejoindre l'ENA où il avait été reçu, il a annoncé à sa femme « Je rengage, j'y vais pas, je renonce à l'ENA ». Et puis sa femme, qui avait les pieds sur terre, lui a dit « Il n'en est pas question, tu rejoins l'ENA, et vite fait, et pas de rêve ou de machin, de toute manière, il est trop tard pour que tu fasses une carrière militaire, etc. » Donc il a cédé, et il est parti à l'ENA. Donc il aimait beaucoup les armées, puis il a continué dans la réserve longtemps. Mais il n'aimait pas n'importe quelle armée. C'est-à-dire qu'il adorait les lieutenants et les capitaines. Il aimait bien les colonels. Il n'aimait pas beaucoup les généraux. Il considérait que, c'était sans doute son expérience personnelle d'Algérie, il considérait que quand on devenait général, on devenait plus préoccupé de sa carrière que du service de la nation. Ce qui était faux, globalement. Hein. Je veux dire, à mon avis, j'ai essayé de lui dire plusieurs fois. Mais il avait cette prévention-là. Et comme il n'aimait pas ce qu'il
a fait... Ce qui est amusant, c'est que Jacques Chirac était lui-même quelqu'un à l'ambition presque proverbiale. Donc c'est amusant que ça ait été la pomme de discorde entre lui et des généraux qui aient pu avoir des traits communs.
Oui, bien sûr. Mais lui aussi était compliqué, beaucoup plus qu'on ne l'a cru. Et alors, Chirac, donc, n'avait pas spontanément... confiance dans les généraux, pas spontanément. Et donc il fallait gagner sa confiance. Et ça, j'en ai fait l'expérience douloureuse, je dois dire, honnêtement. Il m'a fallu 8 mois pour avoir sa confiance totale.
Vous voulez dire une fois que vous étiez chef d'état-major
particulier ? Oui, une fois que j'étais chef d'état-major particulier. Il m'avait nommé parce que mon prédécesseur, l'amiral Delaunay, sous les ordres duquel j'avais servi, l'amiral Delaunay voulait que ce soit moi. Et donc, il m'a, entre guillemets, vendu au président Chirac. Mais le président Chirac ne se souvenait pas de moi. Les présidents de la République ne connaissaient pas les adjoints du chef d'état-major particulier. Ils ne connaissaient qu'une personne, qu'un militaire, le chef d'état-major particulier. Et donc, Chirac m'a vu débarquer. Il a trouvé que j'avais l'air jeune. Bon, il avait des conseillers qui étaient là depuis très longtemps, comme son conseiller diplomatique, Jean-David Lévite, qui était extrêmement brillant. Et donc, il avait tendance naturellement à se méfier un peu de ce jeune Olibrius qui débarquait, et donc qui lui semblait manquer un peu d'expérience, de poids, etc. 8 mois pour gagner sa confiance. Et puis, tout a basculé lorsqu'il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. La première crise. Bon. C'est-à-dire à la fin de l'année 1999, j'étais parti en vacances au Maroc, et puis en rentrant, juste au moment d'embarquer dans l'avion, j'apprends qu'il y avait un coup d'État en cours à Abidjan, ce qui nous posait quand même beaucoup de problèmes, parce qu'il y avait 25 000 Français à Abidjan. Je veux dire, c'était vraiment un souci de sécurité fondamental pour nous, pour les Français qui étaient là, et puis en même temps, un souci tout court, parce que la Côte d'Ivoire était le fleuron de l'Afrique de l'Ouest, de la zone du franc CFA, etc. Donc c'était vraiment une très très mauvaise nouvelle. Et puis il fallait savoir quoi faire. Est-ce qu'on intervenait ou pas? Et quand je suis rentré à Paris, le président Chirac venait de partir pour le Maroc à son tour, pas au même endroit.
C'est marrant d'ailleurs, ça, parce que quand vous lui dites que vous allez au Maroc, il suppose tout de suite que vous allez à la Mamounia, ce qui est très comique. Enfin
bon, bien sûr. Bien sûr, la Mamounia. Non, j'étais pas à la Mamounia, bien sûr, c'était en dehors de mes moyens. Mais lui était à Ouarzazate, je crois, enfin dans le sud marocain. Et puis cette crise se déclenche, et j'arrive au moment où le Quai d'Orsay décide d'ouvrir une cellule de crise permanente. Donc, je rejoins la cellule de crise. Et là, pendant 48 heures, presque non-stop, si on s'arrêtait quand même quelques heures pour dormir la nuit, mais à peine. Pendant près de 48 heures, on a tergiversé, joué au chat et à la souris. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on essaye de sauver le président Bédier? Est-ce qu'il y a encore des forces loyalistes ou non en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut engager les militaires français avec les moyens qu'ils ont, etc., etc. Qu'est-ce que pensent les chefs d'État voisins? Comment réagiraient-ils si, etc., etc. Donc on s'est posé mille et une questions. Et la grande idée de Lionel Jospin et de ses conseillers donc, et de son ministre des Affaires étrangères, c'était qu'il ne fallait pas y aller. Bon. Au nom du principe qui était ni ingérence ni indifférence. Bon. Et là, en l'occurrence, c'était pas d'ingérence.
Ce qui est très compliqué aussi, parce qu'il y a des accords de défense, hein, de sécurité, qui ont des clauses officielles, qui ont des clauses secrètes. Enfin bon, il y a 1200 raisons pour prendre une position comme l'autre sur ces sujets-là, quoi.
Voilà. Et là, pendant cette période-là, ben, le conseiller Afrique du président de la République était bloqué par la tempête. Il y avait une tempête terrible. Il n'y avait plus de train dans le sud-ouest. Puis en plus, il était mal à l'aise parce qu'il avait été très longtemps ambassadeur en Côte d'Ivoire. Il avait des liens personnels très forts avec le président Bédier qui venait d'être renversé. Donc je veux dire, il était quand même un peu suspect d'être un peu partisan dans cette affaire. Et lui essayait de pousser le président de son côté à ce qu'on intervienne pour remettre Bédier sur le trône, si je puis dire, en Côte d'Ivoire. Et moi, je voyais bien, d'une part, la situation sur le terrain, qui était très mauvaise, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun soutien pour Bédier, en réalité. Toutes les forces de sécurité, les armées, la police, etc., avaient basculé du côté des putschistes. Et puis, je voyais bien aussi que si le président poussait trop fort, je veux dire, il y aurait une crise interne franco-française, parce que le Premier ministre s'y opposerait par tous les moyens, et on allait donc à un clash pour une affaire qui n'était pas au cœur de nos préoccupations ni de nos responsabilités. Et donc, moi, j'ai poussé le président Chirac à ce qu'on n'intervienne pas. Mais je l'ai eu au téléphone, je ne sais pas, 7 fois, je crois, en 24 heures, quoi, pour lui dire voilà où en sont les discussions, voilà où on en est, voilà la situation. Et petit à petit, je l'ai convaincu qu'il ne fallait pas y aller. Par contre, nous avons exigé, le président Chirac et moi, comme son porte-parole, que le président Bédier soit exfiltré, protégé, exfiltré et évacué de Côte d'Ivoire pour pas qu'il soit assassiné comme ça se passait hélas souvent dans ce genre d'aventure en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et alors, donc, comme je l'avais eu, j'avais eu des contacts avec lui téléphoniques, si vous voulez, mais extrêmement soutenus pendant 48 heures, moi, je pensais simplement avoir fait mon travail, mais lui, j'avais provoqué le déclic dans son esprit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il m'a considéré comme étant digne de confiance. Voilà. Et sa confiance, je l'ai eue totalement après, sans aucune restriction, même si on était en désaccord. Ce qui est arrivé plusieurs fois. Sur des sujets sensibles, il m'est arrivé de lui dire « Non, monsieur le Président, on ne peut pas faire ça. » Et il se mettait presque en colère, mais in fine, il cédait parce que les raisons que je lui donnais étaient des raisons qui étaient... acceptable, qui était solide. Voilà.
Mais alors, du coup, cette affaire de la Côte d'Ivoire nous a fait entrer dans les grandes affaires, disons, militaires de la présidence Chirac, dont on peut parler, on va revenir un peu en arrière aussi, mais, parce que c'est évidemment une présidence que vous avez vue de près, surtout sur la fin, enfin, à partir de 1999, mais même avant. Mais alors, c'est difficile de commencer par autre chose que le service militaire, qui est à bien des égards le grand legs de la présidence Chirac, parce que je pense qu'on se souvient probablement pas nécessairement, et notamment moi, enfin, pour quelqu'un de ma génération, disons, de la refonte complète et intégrale, le désossement, le rehaussement de l'armée française que ça a impliqué de terminer le service militaire. Et puisque, bon, revenons en arrière, vous avez connu la transition, ce qu'on appelle le tuilage entre François Mitterrand et Jacques Chirac aux premières loges, puisque vous étiez à l'état-major particulier, pas encore chef, mais adjoint à l'époque. Peut-être dites-nous comment ça s'est présenté, cette question, disons, dans la foulée de la victoire de Jacques Chirac en 1995, c'est-à-dire quelle position il avait et comment ça s'est présenté, cette affaire, disons.
Alors, ce qui était compliqué, si vous voulez, c'est qu'il n'avait pas annoncé dans son programme la suppression du service national. Mais il avait directement ou par l'intermédiaire de Lelouch, qui lui servait à l'époque de conseiller pour les affaires militaires, il avait à plusieurs reprises dit qu'il fallait repenser sérieusement les structures de base de nos armées, qu'il fallait envisager des réformes profondes. Ce qui fait que, pour ma part, comme mes camarades de l'état-major particulier, et comme d'ailleurs les conseillers du Premier ministre, parmi lesquels il y avait le général Georges Lain, qui a été mon successeur après, nous étions convaincus que c'était bien cette question du service national que le président avait l'intention de mettre sur la table. On était convaincus. D'autant plus convaincus, si vous voulez, que le grand choc pour nos armées avait quand même été la guerre du Golfe. Parce que pendant la guerre du Golfe, au dernier moment, ou presque au dernier moment, le président Mitterrand avait interdit qu'on associe des appelés à nos opérations, ce qui avait posé des problèmes énormes dans les équipages.
La guerre du Golfe, rappelons, c'est évidemment la première guerre du Golfe de 90-91, où la France a été partie prenante. Mais c'est ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire, vous nous l'avez dit tout à l'heure au sujet du RICM, que en fait, des unités complètement professionnelles, il n'y en avait pas des wagons non plus. Donc si toutes les unités avaient au moins une partie d'appelé, enfin beaucoup des unités avaient des parties d'appelé, donc s'il fallait choisir que les unités entièrement professionnelles, ça faisait moins. Et si on choisissait des unités mixtes, il fallait virer les conscrits. Et donc ça impliquait de tout réorganiser, quoi. On comprend le problème.
Bien sûr, bien sûr. Et Chirac avait beaucoup réfléchi à la question. Alors, il a donc provoqué, je peux vous dire, j'en garde un souvenir marquant, pendant l'année 95-96... il y a eu 7 conseils de défense successifs, qui n'étaient pas des petits conseils de défense du mercredi avant ou après le conseil des ministres, qui étaient des conseils de défense très lourds, avec participation de tous les chefs d'état-major, et pas seulement le chef d'état-major des armées, avec participation du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, bref, tout le banc et l'arrière-ban des armées, sans compter bien sûr les membres de droit, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances. Alors dans ces conseils, donc il y a eu 7 conseils de défense lourds pour conduire cette réforme des armées. Alors ça a commencé par le nucléaire, avant de passer au service militaire, si vous voulez. Mais très vite, il y a eu cette question du service militaire sur la table. Et je me souviens que dans les trois premiers conseils de défense, chaque fois, les chefs d'état-major et le chef d'état-major des armées de l'époque, d'ailleurs, tous représentaient à Chirac un modèle d'armée mixte, comme on disait, c'est-à-dire en partie engagée, en partie appelée. Alors on mettait un peu plus d'engagés au fur et à mesure, mais on restait toujours dans cette armée mixte. Donc il y avait un service militaire qui était maintenu, mais dans des tout petits nombres, ce qui posait des problèmes encore.
Et ce qui renvoie, parlons-en, c'est aux pesanteurs de... C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les militaires voulaient garder des conscrits?
Pourquoi? Ouais. Pour une raison fondamentale. C'était une raison culturelle.
Parce qu'on a bien compris vous nous l'avez expliqué, c'est-à-dire à travers la simplicité que c'était d'avoir un régiment d'engagés, ouais. On a bien compris que le casse-tête que ça pouvait être d'avoir des conscrits avec soi et de mélanger les deux. Donc pourquoi est-ce que les grands généraux voulaient garder ces conscrits?
Alors s'il n'y avait pas que les grands généraux, hein, je peux vous dire que toute la tête des armées, généraux, colonels, souvent un peu en dessous même, était très profondément imprégné d'une culture qui était presque une idéologie de la nation en armes. Vous voyez, c'est-à-dire le modèle clausewitzien de la guerre totale. C'est-à-dire que c'est la nation tout entière qui doit porter les armes et pas seulement une armée à laquelle est déléguée l'usage de la force. Voilà. Et cette idée-là, qu'il devait y avoir, que c'était la nation tout entière en armes qui devait participer, s'appuyait en plus sur des récits de la résistance, de responsabilité de tous les citoyens vis-à-vis de la défense nationale, etc. Et pour leur faire admettre qu'effectivement, le service militaire ne remplissait plus les fonctions qu'il était censé remplir, d'une part, parce qu'il était devenu profondément inégal, et donc il ne remplissait plus cette fonction de socialisation qu'on essaye de retrouver aujourd'hui à travers le service national universel.
Donc inégal, on va le dire, c'est simplement qu'il y avait tellement d'exemptions, tellement de combines, de trucs bien pour sûr. Se faire exempter, qu'en fait, bon, c'était...
Il y avait seulement la moitié, 50% d'une classe d'âge masculine, parce que les femmes en étaient exclues, 50% d'une classe d'âge masculine qui faisait effectivement un service militaire. Il y avait des services civils de différentes natures, il y avait des exemptions en très grand nombre.
C'est marrant, enfin, quand on parle à quelqu'un de ces générations-là, on parle encore des... Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des discussions avec des gens qui expliquaient comment ils s'étaient fait réformer P4, comment ils se faisaient passer pour fous, comment ils se faisaient passer pour diabétiques, etc. Enfin, C'était pas la nation tout entière qui va sous l'uniforme.
Ça, c'était fini. Et ça, c'était un élément très important. Chirac était, alors en tant que lui, officier de réserve, était extrêmement sensible à cet aspect des choses, l'aspect inégalitaire. Et le fait que les armées remplissaient plus, justement, leur fonction sociale de brassage général de la population, de préparation au civisme, etc. Bon, et puis, il y avait une deuxième raison à ça, c'est que le danger, après la fin du pacte de Varsovie, après la fin de la guerre froide, le danger pour notre sécurité se trouvait à l'extérieur, se trouvait dans cette multitude de petits conflits qui se déclaraient un peu partout, dans le pourtour de l'Europe ou en Afrique, et qui menaçaient chaque fois de prendre de l'ampleur et de menacer à la fois nos intérêts et parfois notre population. Et donc, pour faire face à ce genre de conflit, il fallait effectivement une armée plus restreinte, peut-être plus restreinte, forcément plus restreinte pour des questions budgétaires, mais une armée totalement expérimentée, entraînée, et ne faisant pas appel aux appelés avec tout ce que ça pouvait représenter derrière pour l'opinion publique, pour les familles, etc. etc. Donc finalement, quand il est arrivé là, le fruit était mûr, honnêtement le fruit était mûr, c'est-à-dire qu'il était temps de changer de système.
Mais alors du coup, comment est-ce que ça s'est arbitré? Enfin, c'est-à-dire, c'est pas que un changement de composition, un changement de formation, etc. C'est aussi la suppression d'un nombre gigantesque de bases, de casernes. Enfin, je veux dire, ça a une importance folle sur tout le territoire français, pas que le territoire militaire. Mais donc, puisque vous étiez là, en tout cas à un moment, comment ça s'est arbitré? Enfin, voilà, comment ça s'est...
Ça a été très très pénible. Ça a été très pénible. L'option qui a été retenue, c'était que chaque fois qu'il y avait plusieurs régiments ou bases colocalisées, on en supprimait une ou deux de manière à ce qu'il reste un élément quand c'était possible. Mais on n'a pas pu se limiter à ça. C'est-à-dire qu'on a été obligé de supprimer des éléments, même quand il y avait une seule base ou un seul régiment, un peu partout. Et on a abouti, après les réductions d'effectifs qui sont venues encore depuis, il y en a eu beaucoup, on a abouti finalement à ce qui est aujourd'hui un vrai problème concret, c'est-à-dire que la France est très largement un désert militaire par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières où il n'y a pas une seule unité militaire. Ce qui pose des problèmes quand on a des pandémies comme on connaît aujourd'hui, où on voudrait que les armées apportent plus à la population, mais les armées n'ont plus les moyens. Les armées ne sont plus qu'un effectif trop réduit, déjà très engagé en opération partout, et n'ont plus cette capacité de maillage du territoire qu'elles avaient autrefois.
Ouais, c'est très intéressant aussi. Bon, ça renvoie à la problématique générale que la fin du service militaire a vraiment profondément changé la relation entre l'armée et la population. Pour le meilleur, enfin, je veux dire, faut pas dire comme si à l'époque les militaires avaient une super image. Non, le service militaire était aussi une expérience très traumatisante pour beaucoup de gens et beaucoup ont gardé un antimilitarisme très féroce à cause de ça. Mais ça a changé vraiment la présence et ouais, ça a changé la perception mutuelle entre l'armée et sa population. Et c'est toujours un truc auquel il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une distance qui s'installe. Mais
moi, sur ce point-là, je veux dire, si je puis me permettre, moi, j'ai toujours été partisan. Dès le début, j'ai soutenu cette idée de Chirac à fond, parce que j'avais eu la chance de commander des appelés d'abord et des engagés après. Je savais ce qu'on pouvait faire avec des engagés qu'on ne pouvait pas faire avec des appelés. Bon. Même si les appelés étaient souvent des types formidables. Je veux dire, j'ai eu, moi, des commandements merveilleux. J'ai commandé un escadron de chars au régiment de Mar du Tchad et j'en garde un souvenir formidable. Mais on ne pouvait pas tout faire, pas du tout. Mais ce qui m'a frappé par rapport à cette crainte d'une coupure entre l'armée et la nation, c'est que j'ai été en poste aux États-Unis pendant 2 ans, et j'ai été en Angleterre en stage pendant la guerre des Malouines. Voilà deux pays qui n'avaient plus de service militaire depuis longtemps, et où le soutien des armées, le soutien de la population à leurs armées engagées en opération, était beaucoup plus fort qu'en France. Je veux dire, le lien armée-nation aux États-Unis et au Royaume-Uni, malgré la professionnalisation des armées, est plus fort que ce qui existe encore aujourd'hui en France. Donc je veux dire, et d'autre part, il faut reconnaître une chose, c'est que l'image de marque des armées dans la nation n'a fait que progresser depuis la professionnalisation, dans des proportions très importantes.
Ouais, mais alors, du coup, mais c'est intéressant parce que, bon, on parle de ce truc, donc l'armée a été évidemment considérablement réduite en moyens, en effectifs, et puis ensuite ça a continué longtemps, et d'ailleurs, un certain temps où vous étiez aux commandes, alors d'abord en tant que CMP, puis en tant que CMA. Alors je ne vais pas vous demander de refaire toute cette problématique-là, parce que c'est long et c'est compliqué, mais prenons-le par ce bout-là. Comment est-ce que vous voyez en ce moment l'espèce de remontée en puissance, en moyen en tout cas, certainement du point de vue de la programmation militaire, qui a depuis 2015-2016, c'est-à-dire que ce mouvement-là, cette inversion de la courbe relative, mais quand même qui existe, qu'on est en train de voir en ce moment.
Comment est-ce qu'on l'explique?
Non, enfin ça, on l'explique par les attentats de 2015, ouais, on l'explique par tout un tas de trucs, mais bien vous, sûr. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il y a eu, alors que vous avez dû tailler dans tous les sens, est-ce qu'il y a une sorte d'envie par rapport à ce... C'est pas non plus Byzance aujourd'hui, mais c'est mieux. Comment est-ce que vous lisez ça?
Alors, je vais vous dire, comme chef de l'état-major particulier, évidemment, mal, bon, mais ça, c'était l'époque où le Premier ministre, et je ne fais pas de politique, là, le Premier ministre avait, et il le disait, d'autres priorités. Et donc, il ne voulait pas accorder de priorité à la défense, ce qui fait que chaque année, les crédits militaires ont été fortement réduits par rapport à la loi de programmation militaire. Ce qui fait qu'on a accumulé les retards dans tous les domaines, ce qui fait qu'on a été contraint, pour pouvoir s'en sortir aussi, de continuer à réduire les effectifs. Bon. Moi, quand j'ai été nommé chef d'état-major des armées, donc responsable, directement responsable, j'ai bénéficié de la nouvelle loi de programmation militaire que Chirac a fait adopter à ce moment-là par sa nouvelle majorité en 2002. Et là, moi, j'ai connu une période de 4 ans comme chef d'état-major des armées où mon budget augmentait chaque année. Donc, je veux dire, j'ai connu une période de vache grasse. Et puis après, il y a eu la suite. Il y a eu la crise de 2008 qui a été catastrophique, la grande crise financière, si vous voulez, et qui a conduit le président Sarkozy à réduire fortement les crédits militaires et à exiger une réduction d'effectifs considérable une réduction d'effectifs qu'il avait fixée, je crois, à 58 000 hommes. Enfin, je veux dire, sur une armée de moins de 300 000 hommes, c'était colossal, cette réduction d'effectifs nouvelle. Voilà. Et puis, et donc, si vous voulez, alors aujourd'hui, en ce moment, on fait vraiment du rattrapage. Et on fait du rattrapage, et je veux dire que tout s'en ressent. C'est-à-dire que la disponibilité des équipements qui avaient beaucoup baissé remonte. On voit apparaître maintenant à nouveau des équipements neufs, c'est-à-dire alors qu'on a encore en service des équipements qui sont rentrés dans l'armée en même temps que moi, si vous voulez. On voit petit à petit, le moral revient partout, dans toutes les unités des trois armées, si vous voulez. Je crois que c'est extrêmement bénéfique, et je crois que ça a permis de reconstituer une vraie capacité opérationnelle qui commençait à être sérieusement mise en cause.
Alors, pour revenir sur je parle de septennat puis le quinquennat Chirac, alors évidemment, on ne peut pas faire toutes les 12 années de président Chirac sous l'angle militaire, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Alors, il y a la problématique des essais nucléaires, il y a la problématique de la dissuasion, de qui a l'arme nucléaire et qui l'a pas dans les trois armées. Enfin bon, c'est problématique. Enfin, je renvoie vers votre ouvrage, vos ouvrages aussi, parce que j'ai oublié de le citer, mais vous avez aussi publié l'an dernier, où un chef d'État en guerre, aussi chez Perrin, où vous en parlez, notamment dans le chapitre sur Jacques Chirac. Mais peut-être un aspect, puisque vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais qu'il faudrait peut-être approfondir, c'est la dimension africaine. Disons de l'action militaire de la présidence Chirac. Alors, vous avez parlé de la première crise, la crise originelle de Côte d'Ivoire de 99. C'était pas la dernière, c'était même pas forcément la plus aiguë. Y a pas que la Côte d'Ivoire, hein, y a eu la Centrafrique. Comment est-ce que vous avez qu'est-ce que vous en avez gardé, disons, de cette, pas de ce leitmotiv, mais de cette préoccupation permanente de la situation militaire en Afrique sous la présidence Chirac?
Vous remarquerez une chose d'abord, si vous voulez, c'est que ça n'a pas vraiment diminué. C'est-à-dire que ça continue d'être une très grosse préoccupation. Je suis persuadé que ni le président Hollande, ni le président Macron ne s'imaginaient qu'ils allaient envoyer des troupes guerroyer en Afrique, si vous voulez. Certainement pas. C'était pas du tout dans leur optique, pas du tout dans leur champ de vision. Et en fait, le problème de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone, c'est que nous avons des liens étroits, de toute nature, et que il y a sur le territoire national français une très importante population originaire de ces pays. Bon. Et que donc, on ne peut pas ignorer ce qui s'y passe. On peut d'autant moins l'ignorer que souvent, ils nous appellent au secours. Bon. Enfin, certains nous appellent au secours, parce qu'il y a rarement unanimité dans chacun des pays.
Bah, c'est le problème. C'est aussi le problème que la France ait cette position-là.
C'est une position qui est extrêmement difficile. Et
c'est alors que certains appellent au secours, d'autres refusent. C'est une ingérence, c'est l'héritage colonial. Enfin,
tout à fait, absolument. Oui, c'est très complexe. C'est très complexe. Et donc, il faut toujours agir avec énormément de prudence. Et ça, vous savez, Chirac, contrairement à ce qu'on pouvait croire, d'ailleurs, parce qu'il était appelé Chirac l'Africain par Bongo et quelques autres, Chirac avait été très profondément marqué par les événements du Rwanda. Et donc, a priori, il était très réticent aux interventions militaires françaises en Afrique. Moi, je l'ai vécu directement avec lui. Il est intervenu d'abord en Centrafrique, deux fois, mais il n'est intervenu à son corps défendant que parce que c'était le président élu, Ange Patassé, qui faisait appel à lui, parce qu'il pensait qu'il y avait des éléments qui venaient de République démocratique du Congo semer le trouble en Centrafrique. Bon, c'était un peu discutable, mais c'était en partie vrai. Et parce que Ange Patassé était connu pour être très anti-français. Alors, comme Patassé avait été élu régulièrement, président de Centrafrique, qu'il était anti-français, bon, on pouvait y aller, si je puis dire, de manière à peu près propre vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis de tous ceux qui, en France, dénoncent en permanence la France-Afrique. Donc il était intervenu, et puis il s'en est mal porté, parce que ça s'est pas bien passé, je veux dire. Il a été remplacé après par Bozizé, qui était moins anti-français, mais qui n'était pas un meilleur président que Patassé. Quand est arrivée donc cette affaire de Côte d'Ivoire, moi, il m'a convoqué dans son bureau où se trouvait Dominique de Villepin.
Côte d'Ivoire, vous parlez encore de 99?
Là, non, maintenant je parle, la première fois, non. Mais la deuxième fois, la vraie, si je puis dire, celle de 2002. En octobre 2002, j'étais pas encore chef d'état-major des armées, je passais mes dernières semaines, mes derniers 15 jours à l'Élysée comme chef d'état-major particulier, et Chirac m'a convoqué un jour en me disant « Venez dans mon bureau, Dominique de Villepin est là, et il voudrait qu'on parle de Côte d'Ivoire ». Et heureusement, si je puis dire, je savais que la situation se détériorait très vite, parce qu'il y avait une mutinerie dans le nord de la Côte d'Ivoire, et les mutins avançaient en direction du sud, vers Abidjan. Et donc, j'avais été longuement entretenu le matin, heureusement, avec le chef du centre d'opération, qui m'avait expliqué que si jamais les mutins arrivaient à Abidjan, on risquait d'avoir une ville à feu et à sang, parce qu'il y avait beaucoup de partisans du président Gbagbo là-bas, des milices plus ou moins armées.
Et encore une fois, c'est le même problème que tout à l'heure, c'était qu'il y avait toujours 25 000 Français.
Oui, et il y avait nos 25 000 Français qui étaient là. Et donc le chef du CPCO, le général Puga, m'a dit si la guerre civile se déclenche à Abidjan, on ne pourra pas évacuer les ressortissants, on n'y arrivera pas. Et c'est ce que j'ai dit au président Chirac, appuyé par Dominique de Villepin d'ailleurs. Et on a dû presque le forcer, je veux dire, à décider une intervention pour arrêter les mutins. Parce qu'il n'était pas chaud du tout pour y aller. Pourquoi est-ce qu'ils ne règlent pas eux-mêmes leur affaire? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'adressent pas aux autres chefs d'État africains de la CDAO? Et finalement, quand on lui a dit, c'est trop urgent, je veux dire, ça va démarrer et ça risque d'être une catastrophe à Abidjan. Et à ce moment-là, il a donné son feu vert. Mais la mort dans l'âme. Et après, il ne voulait pas s'impliquer non plus dans ces accords de Marcoussi pour essayer de régler politiquement le problème. Il souhaitait que ce soit réglé entre chefs d'État de la région. Il a essayé de le faire et ça n'a pas abouti. Ça a été vraiment un contre-cœur. Et on s'est trouvé finalement embarqué en Côte d'Ivoire pour protéger les ressortissants français et non-ivoiriens, si je puis dire, parce qu'on a évacué aussi d'autres après. Mais on ne s'y est pas trouvé de bon cœur. Et pour régler le problème de la Côte d'Ivoire, certainement pas.
Et vous n'y êtes pas trouvé très bien loti non plus, puisque alors on n'a pas forcément besoin de revenir là-dessus, puisqu'on a fait un long podcast avec le général d'Estrémo, et qui était autant en première ligne qu'il est possible, très littéralement. Mais vous avez perdu des militaires à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
Pas les événements, enfin si, mais le général d'Estrémo. Il y a eu cette problématique de l'hôtel, ouais. L'hôtel Ivoire à Abidjan, mais ça faisait suite, bon, je renvoie au podcast avec lui, mais ça faisait suite à un bombardement de Sukhoi, d'un camp de l'armée française. Bon, c'est très compliqué, mais toujours est-il que la Côte d'Ivoire... mais c'est bon, c'est quasiment proverbial. Hein, on sait quand une opération extérieure, on sait comment on y va, on ne sait pas comment voilà. On en part. Quoi.
C'est vrai pour n'importe quel conflit, hein, pour rien vous cacher. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Cette affaire de bombardement de Boaké, ça a provoqué une réaction de Chirac. C'était intéressant parce que ça venait en 2004, donc un an après son refus de faire participer la France à la guerre contre l'Irak, la guerre américaine contre l'Irak. Et beaucoup de gens à l'époque avaient dit, écrit, que Chirac était devenu pacifiste. Et c'était pas vrai, je veux dire. Il voulait pas qu'on participe à cette guerre en Irak, je le sais, parce que j'en ai parlé souvent avec lui. Bon, il voulait pas qu'on participe à cette guerre en Irak, parce qu'il considérait que c'était une folie, bon, avec des conséquences catastrophiques pour toute la région. Il avait raison, totalement raison. Par contre, quand j'ai rendu compte, alors je suis passé par mon successeur, le chef d'état-major particulier, pour lui poser la question, lui demander l'autorisation de détruire tout de suite les deux avions qui avaient bombardé nos troupes. Et quand la réponse m'est revenue, mais j'ai un quart d'heure plus tard, Georges Lama m'a dit, je viens d'avoir le président, il veut non seulement que tu fasses détruire les deux avions, mais tous les avions et tous les hélicoptères de l'armée ivoirienne. J'ai été estomaqué et je lui ai dit, tu te rends compte du bordel que ça va semer? Je vous parle de manière très libre, mais c'est comme ça que je lui ai parlé. Ça va être l'enfer à Abidjan. Et il m'a dit, le président est parfaitement conscient, je lui ai dit, mais le président estime, d'une part, qu'on ne peut prendre aucun risque que ce genre de choses se reproduisent, et les autres aéronefs, il avait des hélicoptères MI-24 lourdement armés, je veux dire, on ne pouvait pas exclure qu'il recommence quelque chose comme ça. Et deuxièmement...
Alors, par ailleurs, disons que c'est toujours très nébuleux, puisque Gbagbo a longtemps prétendu... Enfin, que c'était pas lui, que... Enfin bon, c'est c'est hyper compliqué de savoir.
C'est très compliqué.
Mais en tout cas, c'est un peu l'engrenage, quoi. On met un doigt dans l'engrenage et c'est compliqué d'en sortir.
C'est compliqué. Mais voyez, la réaction de Chirac, il a ajouté, Chirac, on ne s'attaque pas impunément à l'armée française. Voilà. C'était ce qui était fort, je veux dire. Et ça, si vous voulez, c'est exactement ce que m'ont ressorti les chefs d'état-major africains avec lesquels j'ai eu une réunion 6 mois plus tard. Pourquoi dans le cadre d'un exercice franco-africain qu'on avait organisé. Et tous, y compris ceux qui étaient les plus hostiles à la France, il y en avait, je les connaissais, tous m'ont dit « on ne s'attaque pas impunément à l'armée française ». Donc je veux dire, ils avaient tous parfaitement compris pourquoi Chirac avait fait détruire l'ensemble de la flotte aérienne ivoirienne. Voilà. Donc tout ça pour conclure simplement que Chirac n'était pas devenu pacifiste, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Simplement, il n'était pas du tout... il n'avait pas le goût de la guerre pour la guerre, de casser pour casser, de l'intervention pour l'intervention.
Oui, mais l'autre enseignement de ça, c'est ce que vous nous décriviez déjà au sujet de la Centrafrique, c'est que les structures de temps long, l'héritage colonial, l'héritage... ça fait que c'est pas si simple que de ne pas vouloir intervenir ou de vouloir intervenir ou de vouloir intervenir pour préserver des intérêts ou quoi. Voilà, il y a de la grosse inertie à contrecarrer pour faire en sorte de ne pas intervenir dans ces sujets-là, quoi.
Oui, l'idée de Chirac, à partir du moment où il s'était converti à l'Europe de la défense, à une défense européenne, l'idée de Chirac, c'est qu'on devait tout faire le plus possible, d'une part en coopération avec d'autres pays africains, et d'autre part sous le drapeau européen.
Mais alors, ça ouvre aussi vers, vous avez déjà commencé à en parler, mais vers la transition, puisque vous êtes passé de CEMP, de chef d'état-major particulier, à CEMA, chef d'état-major des armées, ce qui est, bon, très clairement une promotion. On a bien compris la difficulté, la subtilité de ces deux fonctions, mais c'est quand même une promotion. Et en même temps, un angle très différent pour traiter des mêmes sujets. Mais... quand même, disons, quelle continuité vous avez vu là-dedans et quelle différence ça a fait pour vous de passer directement de l'un à l'autre? C'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel, hein. C'est beaucoup de CEMA sont d'anciens CEMP qui passent directement de l'un à l'autre. Mais bon, voilà, comment est-ce que les sujets et les dossiers ont changé pour vous avec moins de proximité avec le pouvoir politique, mais avec plus de pouvoir attaché, disons, à votre personne?
Ouais, j'étais responsable, je redevenais responsable. Après une période, vous savez, quand on est conseiller, c'est une bataille quotidienne interne à la maison, parce qu'il faut chaque fois essayer de une bataille bureaucratique, c'est pire. Faut tenir son territoire, éviter qu'il y ait des empiétements continuels des uns ou des autres, éviter que le conseiller diplomatique obtienne du président des décisions qui aient une implication pour les armées discutable. Éviter que le conseiller financier du président n'obtienne son accord pour des réductions budgétaires, etc., pour la défense. Bon, donc on est dans une bataille permanente, mais on n'est pas responsable. Quand on est chef d'état-major des armées, on est en pleine responsabilité. C'est-à-dire, on commande les opérations. Je commandais toutes les opérations dans lesquelles étaient engagées les armées françaises. Il y en avait beaucoup à l'époque. Bon. J'ai connu, pendant les 4 ans où j'étais en place, il n'y a jamais eu de période où il y a eu moins de 10 000 hommes engagés en opération, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Liban, au Tchad, en République démocratique du Congo. Enfin, il y en a eu partout, en Bosnie, bien sûr, au Kosovo, etc. Donc il y en avait de tous les côtés, et donc c'était une responsabilité quotidienne extrêmement lourde. Puis on a aussi, comme chef d'état-major des armées, une préoccupation qui est rarement celle du CEMP, c'est la préparation de l'avenir. C'est-à-dire le poids des budgets, le poids des futures lois de programmation militaire, la réflexion sur ce qui doit changer dans les armées. C'est-à-dire, vous savez, on vit dans des réformes permanentes dans les armées, parce que comme on n'a pas de syndicats, je veux dire, il n'y a pas les blocages qu'il y a dans les autres ministères. Donc c'est facile d'obtenir des militaires qui se réforment, parce qu'il suffit de leur donner l'ordre.
Ils ont d'autres moyens de résistance.
Les armées ?
Ouais, les militaires.
Aux réformes, difficile. Pas beaucoup. Pas beaucoup pour s'opposer aux réformes. La plupart passent. Elle passe au moins provisoirement. Bon. Donc, si vous voulez, j'ai vécu la perte d'une influence qui, je crois, était réelle sur les décisions du président. Et par contre, j'ai gagné tout ce qu'il y a de plus épanouissant dans le commandement, c'est-à-dire la responsabilité des hommes et des femmes qui font tourner tout ça. Mais les moments les plus touchants pour moi, les plus forts, les plus passionnants, c'était quand je visitais nos troupes en opération. Je le faisais très régulièrement. Je veux dire, tous les 4 mois, je visitais l'ensemble de nos forces en opération, ce qui me prenait énormément de temps, mais c'était pour moi des moments essentiels parce que ça me permettait d'une part de savoir réellement ce qui se passait sur le terrain. Pas toujours.
Non, mais ça c'est hyper intéressant. C'est la pratique de l'inspection, qui est une pratique, inspection pas forcément formelle, mais en tout cas de passer en revue, qui est un truc complètement intégré aux armées. Il y a des rôles d'inspecteur des armées, c'est le rôle du chef que d'inspecter, que de passer en revue. Mais ce qui pose la question de ce qu'on voit vraiment ou pas quand on inspecte.
Alors, on vous cache des choses, bien sûr, toujours. Mais bien sûr, on sait qu'on vous cache toujours des choses. Comment m'avait caché ce qui s'était passé dans l'affaire Mahé, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, bon, une mauvaise affaire qui s'est terminée par un procès l'année dernière. Bon, mais on vous cache des choses, mais le chef sur place, le commandant de théâtre, ne peut pas masquer complètement au chef d'état-major des armées ses préoccupations, ses inquiétudes. Quelquefois, c'est insuffisance. Bon, quand on connaît un peu les hommes, la machine, voilà. D'autant plus que, malgré tout, je ne me contentais pas d'aller voir le commandant de théâtre lui-même et son entourage immédiat. Je veux dire, j'avais quand même, il y avait toujours un grand pot organisé. Ces grands pots, moi, je suis pas du tout d'une nature mondaine, hein, mais ces grands pots... Moi, je discutais avec les soldats, avec les sous-officiers, avec les jeunes officiers. Et je tâtais le pouls. Et je me rendais bien compte s'ils étaient bien ou pas bien, s'ils étaient inquiets de ce qu'ils faisaient ou insatisfaits, etc. On s'en rend compte quand on est un peu ancien, un peu âgé. D'autant plus que ces soldats-là, ils avaient l'âge de... ils étaient un peu plus jeunes que mes enfants, mais enfin quand même, si vous voulez. Bon, voilà. Donc il y avait une partie des choses qui étaient cachées. C'est pour ça que je bénéficiais du reste, c'est-à-dire des inspections traditionnelles. L'inspecteur des forces en opération, qui est une inspection que j'avais créée, l'IFO. Et puis ce que faisaient les inspecteurs généraux, que j'ai utilisé quelques fois. Voilà, j'avais d'autres canaux.
Ouais, mais alors maintenant, j'aurais voulu aussi parler de la succession dans ces postes. C'est-à-dire, vous l'avez dit, vous avez pris la succession du général Kelch en tant que chef d'état-major des armées. Mais vous écrivez quelque part qu'il vous a dit à un moment que vous lui succéderiez un jour, bien avant que ce soit le cas. Et de votre côté, vous avez été succédé aux fonctions de CVMP puis de CEMA les deux fois par le général Georges Lain. Et bon, c'est pas un secret non plus que le général Georges Lain a eu beaucoup d'influence, disons très durable, sur les choix de ceux qui lui ont succédé. Vraiment, même à plusieurs mandats après, quoi. Donc comment est-ce que vous voyez ça, cette espèce d'influence sur la continuation de ses propres fonctions au sein des armées? Il y a une manière très positive de voir la chose, qui est le fait de s'assurer une cohérence dans le temps, qu'il n'y a pas un successeur qui détricote tout. Il y a aussi une manière plus tempérée, qui est de voir ça sous l'angle de réseau, de fidélité, etc., qui sont aussi la manière dont ça se passe, pas que dans les armées, au sommet de l'État. Mais voilà, comment est-ce que vous voyez ces pratiques, quoi, ces phénomènes?
Alors, je vais vous dire, la décision pour tous les grands postes, les postes de chef d'état-major en particulier, dont le poste de chef d'état-major particulier, la décision appartient toujours à une seule personne, un seul homme, le président de la République. Le président de la République ne connaît pas personnellement, évidemment, l'ensemble des généraux susceptibles d'accéder à ses fonctions. Donc il se repose, normalement, sur le ministre de la Défense, le ministre des Armées. Et le ministre de la Défense ou le ministre des Armées connaît un peu, les généraux à droite et à gauche, a ses propres réseaux à l'intérieur du système. Bon. Et donc, arrive toujours à proposer deux ou trois noms pour chaque poste. Voilà. Et le président choisit. Alors à ce moment-là, tout dépend de la nature des relations qui existent entre le président de la République et son chef, et le chef de son état-major particulier. Parce qu'in fine, c'est là que ça se passe. C'est pas le SEMA qui va imposer son choix, jamais. C'est vraiment le chef de l'état-major particulier qui va in fine essayer d'orienter le président de la République vers un tel ou un tel. Si le chef d'état-major particulier a des relations distantes avec le président de la République, ce qui est arrivé entre François Mitterrand et plusieurs de ses chefs d'état-major particuliers, des relations très distantes, ces derniers n'avaient aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Aucune. Bon. Même Langsade, qui est, Dieu sait, a été très proche de François Mitterrand, qui avait une compréhension extraordinaire de la personnalité de François Mitterrand. Je veux dire, même dans le monde civil, il n'y en avait pas beaucoup qui comprenaient aussi bien Mitterrand que Langsade. Langsade n'a pas réussi à obtenir, à imposer son candidat pour lui succéder à l'état-major particulier. C'est Jox qui a emporté le morceau en présentant lui son propre candidat. C'est vous dire que l'influence, en réalité, la cooptation militaire fonctionne pas toujours si bien que ça.
Oui, donc c'est qu'il y a une sorte de triangulation, quoi.
Il y a aussi le ministre, donc, qui joue un rôle important. Quand c'est un ministre qui est aussi proche du président que l'était Le Drian par rapport à Hollande, c'est Le Drian qui impose son candidat. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute possible. C'est pas le chef d'état-major particulier. Rogel, il a été imposé par Le Drian.
Donc Rogel, rappelons que c'est l'ancien chef d'état-major particulier du président qui vient de quitter
ses fonctions. Voilà, l'amiral Rogel, c'est ça qui avait été auparavant chef d'état-major de la marine. Jamais on n'avait nommé à ce poste-là quelqu'un qui avait déjà été chef d'état-major. Jamais. Bon. Et là, c'est uniquement cette connexion de confiance très forte entre le président Hollande et Jean-Yves Le Drian qui a permis cette... Donc c'est vous dire que la cooptation de militaire en militaire, c'est pas quelque chose qui marche à tous les coups du tout. Pas du tout. Voilà. Par contre, quand le chef d'état-major particulier est très proche du président, je veux dire, c'est lui, in fine, qui a toujours le dernier mot, c'est sûr.
Mais alors ensuite, vous êtes, disons peut-être un mot juste pour finir, vous êtes ensuite passé pendant 3 ans aux fonctions de chef d'état-major du comité militaire de l'Union européenne. Alors, c'est des fonctions qui sont beaucoup moins familières auprès du grand public, ce qui est pas normal, puisque c'est tout ce qui touche à l'Europe et à la défense. Mais alors, expliquez-nous peut-être ce que c'est, en quoi ça consiste concrètement, quoi.
Oui, alors, le titre exact, c'est président du comité militaire. Bon, personne ne comprend ce que ça veut dire. Moi-même, je savais pas du tout ce que ça voulait dire avant d'être chef d'état-major des armées et d'avoir fréquenté un peu l'Union européenne et l'OTAN, où il y a dans ces deux institutions un président du comité militaire. Le comité militaire, c'est quoi? C'est le comité des représentants des chefs d'état-major de tous les pays de l'Union européenne. Voilà. Et d'ailleurs, le président du comité militaire réunit chaque année, 2 fois par an, les chefs d'état-major eux-mêmes de tous les pays. Et qu'est-ce qu'on y discute à ce comité militaire? On y discute toutes les questions militaires communes qui intéressent tous les pays de l'Union européenne. C'est soit les opérations... Il ne faut pas oublier quand même que l'Union européenne en est déjà, je crois, à sa 9e opération militaire depuis 2003. Donc, si vous voulez, c'est pas négligeable. Il y a eu des opérations, dont certaines assez lourdes. 7 000 hommes en Bosnie, c'était pas rien. 4 000 hommes au Tchad, c'était pas rien non plus. Donc, je veux dire, c'est des opérations qui peuvent être même d'une certaine ampleur, même si ce n'est pas des opérations d'une très grande intensité. Donc, ce comité militaire, eh ben, il traite des questions aussi bien de coopération d'armement que des questions d'accord pour éliminer des lacunes importantes qui existent dans tous les pays européens, ou pour préparer d'éventuelles opérations, et quand elles sont lancées, pour en assurer le suivi. Et le président du comité militaire est celui qui, de facto, en assure la conduite. Parce que personne là-bas dans cette nébuleuse qu'est l'Union européenne n'est vraiment responsable des opérations. Ce n'est pas le secrétaire général du Conseil ou le président du Conseil à l'heure actuelle, parce qu'il est très au-dessus de tout ça. Donc il faut bien que quelqu'un concrètement, tous les jours, s'occupe de la conduite des opérations, et c'est le président du Comité militaire de l'Union européenne. Voilà. Alors j'ai occupé ces fonctions pendant 3 ans. Ce sont des fonctions qui sont souvent plus diplomatiques que militaires, pour être franc. Parce que ce qu'il faut, c'est arriver à ce que les 28, 27 maintenant, nations européennes, se mettent d'accord. Donc il faut trouver des compromis. Il faut trouver à la fois les mots et les mesures qui vont bien pour que les opérations soient acceptables. Il faut convaincre ensuite différents pays de mettre des unités à disposition de l'Union européenne pour participer à ces opérations. Il faut se bagarrer un peu avec l'Agence européenne de la défense, qui s'occupe des questions européennes, des questions d'armement, pardon, des questions d'armement, de manière à ce que les projets de l'Agence européenne de défense soient en conformité avec les souhaits des chefs d'état-major, etc. Voilà. Donc c'est beaucoup plus de diplomatie qu'autre chose.
Mais alors, puisque l'Europe m'y fait penser, mais je vais vous demander, au terme de ces fonctions, est-ce qu'il y a des... Enfin, j'imagine, oui, mais est-ce que vous avez des frustrations?
Des frustrations.
Ouais, non, pas personnelles, mais vous en avez parlé, par exemple, tout à l'heure au sujet de l'école de guerre. Du fait que vous n'avez pas réussi à faire certains trucs avec l'école de guerre. Ouais. Je recommande d'ailleurs, vous avez fait un très bel entretien avec Jean-Luc Cotard dans le dernier numéro d'Inflexion consacré à l'échec. Mais donc, au terme de ce parcours, à l'état-major particulier, puis à l'état-major des armées, puis à l'échelon européen, est-ce qu'il y a des... Alors, on peut toujours faire plus. Mais est-ce qu'il y a des choses dont vous disiez que c'était dans votre... à votre portée, quoi, qui c'était faisable, vous aviez l'impression que c'était faisable, et vous avez buté sur quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses qui vous restent en tête, quoi, que vous ressassez, mais en tout cas sur lesquelles vous avez ce genre de sentiment, quoi.
J'ai pas beaucoup de frustration. J'ai quelques regrets. Voilà. Mon principal regret, c'est de ne pas avoir réussi à mettre à plat, comme je le souhaitais, l'énorme problème budgétaire, le mur budgétaire que je voyais se monter petit à petit devant nous.
Sur les équipements, les...
Sur les équipements, ouais, le renouvellement des équipements. Ouais. Les budgets avaient été tellement amputés pendant 5 ans que petit à petit, on avait accumulé les retards et tous les renouvellements d'équipements étaient reportés à peu près à la même date. Donc c'était un véritable mur qui a fait en face de nous. Pour pouvoir le franchir, il aurait fallu qu'on augmente d'un seul coup de 5 ou 7% les budgets de la défense, ce qui était inenvisageable. Et ça, je n'ai pas réussi à le faire passer, je n'ai pas réussi à faire démonter tout ça pour qu'on essaie d'en tirer les conséquences, soit des annulations drastiques de certains équipements, soit de nouvelles réductions d'effectifs auxquelles je ne tenais pas du tout, pour être franc, une planification raisonnée d'une augmentation, au moins dans certains secteurs, des crédits dont on avait besoin. J'ai pas réussi à le faire. J'ai essayé, on a essayé, je veux dire mon adjoint et moi, l'amiral Coldefy, on a essayé de le faire. On s'est livré à un exercice très important de mise à plat. on a fait des scénarios, enfin, on s'est donné beaucoup de mal. Et in fine, la ministre de l'époque, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a jugé que c'était pas présentable au président de la République. Ce que Georges Lain m'a confirmé après, il était chef d'état-major particulier, et il m'a dit, le président, aujourd'hui, à 1 an ou 2 ans de la fin de son dernier mandat, n'est pas disposé à entendre qu'une de ses réformes principales, la réforme des armées, risque d'échouer, faute de crédit. Il n'acceptera pas, il estimera que c'est de la mauvaise gestion de la part des armées. Je veux dire, c'est pas la peine de lui présenter, c'est pas la peine. Donc on est assez. Alors ça, c'était mon regret principal. Parce que ça s'est retrouvé, évidemment, après, en 2008. Alors en 2008, ça s'est aggravé de manière catastrophique à cause de la crise financière. Mais je veux dire, c'est là que le président Sarkozy a décidé une réduction d'effectifs colossale qui a mis complètement à plat, désorganisé profondément.
Oui, c'est ça, il a profité du... Enfin, de toute façon, ça n'allait pas passer, donc autant tout reprendre.
Voilà. Et donc les conséquences ont été catastrophiques. Est-ce qu'on aurait évité ce genre de conséquences? J'en suis pas sûr, bien sûr, parce que c'est toujours très compliqué. Mais oui, ce regret-là, je l'ai gardé. Autrement, j'ai pas beaucoup de regrets. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai dit, et j'ai été très heureux dans ces responsabilités, même si c'était terriblement exigeant, notamment au plan personnel.
Merci beaucoup, Général Ventéja, pour ce moment et pour cette discussion. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. J'espère évidemment que tous les auditeurs ont passé de bonnes fêtes de fin d'année, malgré le contexte. Je souhaite une très heureuse nouvelle année à tous. On pourra de toute façon difficilement faire pire que 2020, même si on est régulièrement surpris de ce point de vue-là. Mais en tout cas, je peux juste dire que ça a été malgré tout une très belle année pour l'émission, qui a grandi considérablement, notamment en période de confinement, mais pas seulement. Et j'espère qu'on pourra continuer ainsi à l'avenir. Vous pouvez aussi commencer la nouvelle année comme d'habitude en nous en part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, mais aussi en notant et en commentant le podcast, en particulier sur Apple Podcasts, puisque vous le savez, ce sont ces retours qui permettent de gagner en visibilité et de continuer cette croissance qui nous réjouit de mois en mois. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.